Bonsoir madame, messieurs, au micro Nanit Talani pour vous présenter le monde aujourd'hui depuis Washington, la capitale fédérale américaine. Au sommaire, le Mali annonce des arrestations liées à l'attaque d'envergure de septembre à Bamako. Le Niger met en pause les enseignements sur la sexualité, estimant que certains contenus portaient atteinte aux valeurs socioculturelles du pays. Le président nigérian en visite d'État en France pour renforcer les relations économiques. Au moins 15 morts dans un glissement de terrain en Ouganda après de fortes pluies. La réforme constitutionnelle de Félix Tshisekedi divise la RDC. L'opposition réagit dans une interview de Bernadette Tokwalo à suivre dans nos dossiers du jour.
On est en train de mentir à la population pour justifier la modification de la Constitution pour dépasser la limite des 2 ans.
Sur le terrain, Cannes féminine handball 2024 à Kinshasa. Le Congo-Brazzaville domine le Kenya tandis que la Guinée et la Tunisie partagent les points. Ce sera après l'économie, d'abord le journal. L'armée malienne a annoncé l'arrestation de 6 terroristes impliqués dans les attaques meurtrières du 17 septembre à Bamako. Ces attaques d'envergure ciblant l'aéroport militaire et un centre d'entraînement de la gendarmerie ont été revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Les 6 suspects sont accusés d'avoir facilité l'arrivée des commandos terroristes, mené des missions de surveillance et fourni un soutien logistique. Cet événement est le premier du genre à se produire à Bamako depuis 2016, alors que d'autres régions du pays sont souvent attaquées. La ministre nigérienne de l'Éducation nationale a ordonné ce mercredi le retrait immédiat de l'éducation à la sexualité des programmes scolaires. Elle estime que ces contenus portent atteinte aux valeurs du pays, majoritairement musulmans. Elle appelle à des cours adaptés. Le point avec Georges Attino.
L'analyse préliminaire des programmes d'enseignement du primaire et du secondaire a révélé que certains contenus portent atteinte à nos valeurs socioculturelles, a affirmé Elisabeth Chérif dans une circulaire adressée au chef d'établissement. En attendant des conclusions des travaux du comité interministériel chargé de la relecture des programmes, la ministre demande au directeur d'école de veiller à ce que certains contenus soient immédiatement suspendus des programmes d'enseignement. Les sujets concernés par cette suspension incluent des thèmes tels que la sexualité, les infections sexuellement transmissibles, le cycle menstruel, l'anatomie des appareils génitaux, l'espacement des naissances et la reproduction. Ces matières ont été spécifiquement ciblées en raison de leur rejet par une importante frange de la population, précise leur ministre. En février dernier, une initiative similaire avait conduit à la suppression d'une application mobile dédiée à la sensibilisation sur la santé sexuelle de reproduction des femmes, développée par des organisations non gouvernementales. Le Niger a le taux de natalité le plus élevé au monde selon les statistiques officielles.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a lancé un appel à la fin des combats au Soudan lors de sa visite dans des camps de réfugiés soudanais au Tchad. Il a exhorté les belligérants à cesser leurs hostilités et à entamer des négociations. Par ailleurs, il a appelé les puissances étrangères soutenant les parties en conflit à ne pas aggraver la situation, évoquant les accusations selon lesquelles les Émirats arabes unis fourniraient des armes au FSR et que le Tchad jouerait un rôle en permettant le transit d'armement. La diplomatie tchadienne a réaffirmé la neutralité de N'Djamena dans le conflit, soulignant l'importance pour le Tchad de maintenir la paix, notamment en raison de sa longue frontière avec le Soudan. Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a entamé ce jeudi une visite d'État à Paris, une première depuis 24 ans. Une visite centrée sur le développement des relations économiques, alors que la France renforce ses partenariats en Afrique anglophone après une série de revers dans le Sahel francophone. Les précisions de John Lindon.
Après une première cérémonie au musée militaire des Invalides, Bola Tinubu, portant un couvre-chef traditionnel, et le président Emmanuel Macron se sont chaleureusement serrés la main sur le perron de l'Élysée. Les premières dames des deux pays, Olurimi Tinubu et Brigitte Macron, se faisant la bise pour l'occasion. Les deux chefs d'État ont ensuite co-présidé un conseil d'affaires franco-nigérian réunissant les patrons des deux pays. De gros contrats sont espérés dans la foulée de cette réunion, selon une source diplomatique à Paris. Ce conseil d'affaires avait été lancé lors d'une visite de Macron au Nigeria en 2018, l'année suivant son élection. Il marquait par là son intention de tisser davantage de liens avec les géants économiques émergents de l'Afrique anglophone, au-delà des partenaires africains francophones traditionnels de Paris. Pays le plus peuplé d'Afrique avec 227 millions d'habitants et 410 millions attendus en 2050 selon l'ONU, le Nigeria était l'an dernier le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne, selon les douanes françaises.
Le gouvernement de Guinée équatoriale a signé un contrat avec une société chinoise pour installer un système de vidéosurveillance dans les ministères et tribunaux du pays. Cette décision fait suite à la diffusion virale de sextapes de Balthazar Ebong Engonga, un haut responsable accusé de détournement de fonds publics, filmant ses ébats dans divers lieux officiels. L'objectif du système de vidéosurveillance est de renforcer la sécurité nationale et de protéger les mineurs. La première phase du projet, qui durera un an et demi, sera mise en place dans les deux principales villes, Malabo et Bata. En Ouganda, la police a annoncé ce jeudi que les glissements de terrain survenus ces derniers jours dans l'Est ont causé plusieurs morts et de nombreuses disparitions. Ces glissements de terrain sont intervenus après des pluies diluviennes. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
Au total, 15 corps ont été retrouvés tandis que 15 blessés ont été secourus. Malheureusement, 113 personnes sont toujours portées disparues. Des efforts sont en cours pour les retrouver, a annoncé la police dans un communiqué publié ce jeudi. Le bureau du Premier ministre avait émis mercredi soir une alerte catastrophe après que des fortes pluies survenues mercredi ont conduit à des situations de catastrophe dans de nombreuses régions. Les opérations sont toutefois entravées par des routes impraticables qui empêchent les engins et ambulances d'accéder au site, ajoutait l'alerte. L'Ouganda connaît des précipitations de forte intensité depuis deux jours qui endommagent notamment les infrastructures de transport. Dans le nord-ouest du pays, la rivière Tanguy, affluent du Nil Blanc, a débordé de son lit. Les dernières saisons de pluie en Afrique de l'Est ont été plus violentes que la normale, aggravées par le phénomène climatique El Niño. Lors de la précédente, entre mars et mai, au moins deux personnes avaient péri en Ouganda. Au Kenya voisin, les intempéries avaient fait au moins 228 morts, 72 disparus et plus de 200 000 déplacés entre mars et mai, selon des chiffres officiels.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Moyen-Orient, Israël et le Hezbollah s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu obtenu grâce aux efforts des États-Unis et de la France est entré en vigueur mercredi. Le point avec Timothée Donongmaï.
La trêve qui est censée mettre un terme à plus d'un an de combat au Liban entre Israël et le Hezbollah se trouve déjà menacée. L'armée israélienne affirme qu'elle a été violée par l'arrivée de suspects, certains à bord de véhicules, dans plusieurs endroits du sud Liban. Selon les médias et des sources sécuritaires libanaises, des tirs de chars israéliens ont touché 6 secteurs de la zone frontalière, notamment les plaines agricoles autour de Marjayoun. Hassan Fadlala, député du Hezbollah, a accusé Israël d'avoir violé la trêve et de s'attaquer à des personnes déplacées tentant de retourner dans leur village près de la frontière. Les troupes israéliennes sont toujours positionnées dans diverses localités libanaises de cette région. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré leur avoir ordonné de bloquer le retour des déplacés dans cette zone frontalière. Dans la bande de Gaza, les frappes militaires israéliennes ont fait au moins 21 morts jeudi, selon des médecins. L'armée israélienne a intensifié ses bombardements sur les zones centrales alors que ses chars ont avancé plus profondément dans le nord et le sud de l'enclave.
Le gouvernement espagnol a approuvé un congé payé climatique de 4 jours pour les travailleurs en cas d'alerte liée à un risque météorologique. Cette mesure, adoptée après les inondations ayant causé 230 morts dans le sud-est du pays, fait partie d'un ensemble de mesures visant à adapter le droit du travail au contexte d'urgence climatique. Les salariés bénéficieront de ce congé payé si une alerte est émise par une autorité locale ou nationale afin d'éviter les déplacements dangereux. En cas de prolongation de l'alerte, les entreprises pourront recourir à des dispositifs de chômage partiel. C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez les informations sur VOA Afrique et voaafrique.com. Restez avec nous pour un tour d'horizon des informations économiques avec Abdourahmane Dia.
En Afrique du Sud, les perspectives de stabilité financière se sont améliorées après des élections réussies et une réduction des coupures de courant. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi la Banque centrale. La Banque centrale sud-africaine est également bien engagée dans son cycle de réduction des taux d'intérêt, les analystes prévoyant de nouvelles baisses à partir de l'année prochaine. Des pirates informatiques ont volé 62 milliards de shillings ougandais, soit 16,8 millions de dollars à la Banque centrale ougandaise. C'est ce qu'a rapporté ce jeudi le journal d'État New Vision. Les pirates qui se sont identifiés comme West auraient accédé au système informatique de la Bank of Uganda et transféré illégalement les fonds au début du mois. Le groupe de pirates informatiques basé en Asie du Sud-Est a envoyé une partie de l'argent volé au Japon, a déclaré le journal, citant des sources anonymes au sein de la banque. La banque et la police n'ont pas répondu aux demandes de réaction de Reuters. Enfin, le Maroc, l'île Maurice et le Gabon sont parmi les pays qui offrent le meilleur potentiel d'investissement dans l'intelligence artificielle en Afrique, selon un rapport publié récemment par l'Agence française de développement. Les autres pays cités par l'étude sont le Rwanda, le Kenya, le Botswana, la Tunisie, le Sénégal et l'Égypte.
Nous invitons à présent pour un tour d'horizon des événements sportifs marquants avec Timothée Donongbaye. Bonsoir Tim. Coupe de la Confédération de la CAF 2024-2025, Simba SC commence fort avec une victoire contre Bravos de Makis en phase de groupe.
Le club tanzanien a remporté une victoire par 1-0 contre les Angolais de Bravos do Makis. Le match joué au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam a été marqué par un pénalty transformé par Jean-Charles Ahoua à la 27e minute et ce après une main dans la surface de l'Angolais Edmilson Paulo Generoso. Malgré plusieurs tentatives de Bravos do Makis, dont un pénalty sauvé par le gardien de Simba SC, Moussa Camara, et des tirs manqués, Simba SC a tenu bon grâce à une solide défense. Dans l'autre match du groupe, CS Constantine a battu le CS Sfaxien 1-0.
Classement FIFA, Maroc, leader africain, maintient son rang sur le continent.
Le classement FIFA a été actualisé ce jeudi. Et côté africain, le Maroc est toujours numéro 1, même si les Lions de l'Atlas perdent une place sur le plan mondial, passant de la 13e à la 14e place. Le Sénégal est deuxième africain, passant du 20e au 17e rang. L'Égypte, 33e mondial, complète le podium africain. À noter que la meilleure progression de ce classement FIFA revient au Niger. Le MENA a fait un bond de 9 places pour se retrouver 122e mondial et 33e en Afrique.
CAN féminine handball 2024, le Congo-Brazzaville triomphe du Kenya, tandis que la Guinée et la Tunisie se neutralisent.
Après une défaite initiale contre l'Égypte, le Congo-Brazzaville a signé sa première victoire à cette compétition en battant le Kenya 37-20 lors de la deuxième journée du tournoi ce jeudi. Une victoire qui permet au Congo de marquer ses deux premiers points dans le groupe A, tandis que le Kenya reste à la dernière place avec deux défaites. Par ailleurs, le match entre la Guinée et la Tunisie s'est terminé sur un match nul, 28 points partout. Plusieurs autres résultats notables ont été enregistrés hier. Le Sénégal a largement dominé le Kenya, 39-9. L'Algérie a battu le Cap-Vert, 20-16. Et la Guinée a perdu face au Cameroun, 26-32. Dans le groupe B, l'Angola a défait la Tunisie, 36-23. Et l'Égypte a battu le Congo-Brazzaville, 27-23. La RDC a battu l'Ouganda, 38-11.
Pour terminer, la Nigeria. Ariane Tobi Amusan devient la plus jeune femme à intégrer le Hall of Fame de l'Université du Texas.
L'athlète nigériane a partagé sa joie sur les réseaux sociaux, exprimant sa fierté d'être la plus jeune de cette promotion. Tobi Amusan est la première nigériane à remporter une médaille d'or au championnat du monde et détient plusieurs records, dont celui du 100 mètres air. Elle est également l'athlète la plus titrée de l'Université du Texas.
Merci Tim.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. De nouveau avec vous, Nanit Talani. Avant de clore ce journal, passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi continue à mobiliser les Congolais à soutenir le changement de la Constitution pour lequel il souhaite convoquer une commission d'experts dès le début de l'année prochaine. Il a réitéré l'appel mardi à Kalemie dans le Tanganyika, mais l'opposition aussi se mobilise de son côté en vue d'essayer de lui barrer la route. Eddy Issango a joint à Kinshasa l'une des candidates à l'élection présidentielle de 2023 et membre de l'opposition, Bernadette Tukwalo Aina.
Le président Tshisekedi est un populiste. Il va sortir l'article 217 de la Constitution pour inventer un énorme mensonge disant que cet article nous oblige à céder des territoires aux étrangers. Non, c'est un article qui permet, dans le cadre de l'unité africaine, de faire des abandons partiels de souveraineté. Par exemple, nous pouvons décider que les pays africains n'auront plus besoin de visa pour entrer en RDC. C'est ce genre d'accord que permet l'article 217. Et c'est un vaste mensonge de dire à la population que c'est un article qui nous oblige à céder les terres. Et c'est d'autant plus cynique que le président Tshisekedi a signé les accords de EAC et que la charte de l'EAC qu'il a signé donne l'autorisation à l'EAC d'acheter nos terres, de les vendre et de les exploiter. Acheter les terres et les vendre, c'est la terre de nos ancêtres. Nos terres sont riches en coltan et à toutes les richesses que vous connaissez. Donc, il est malvenu d'autoriser les pays de l'EAC à acheter et à les aliéner. Par contre, il est tout à fait normal, dans le cadre de l'intégration africaine, de les autoriser à exploiter sur base de contrats et d'intérêts économiques. Donc, en fait, on est en train de mentir à la population pour justifier la modification de la Constitution. Pour dépasser la limite des 2 ans et pouvoir se payer 7 ans plus 7 ans, ça veut dire 14 ans de pouvoir. Mais dans l'état où est notre pays, que M. Tshisekedi est totalement en train de détruire, si nous le laissons faire, notre pays est mort. Il a réussi à détruire le peu que nous avions construit après 60 ans d'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale.
Maintenant, le président Félix Tshisekedi en a appelé à la population, mais vous êtes là de l'opposition, que comptez-vous faire?
L'opposition est mobilisée. Personnellement, je fais partie d'un collectif appelé Sursaut National, avec l'honorable Délice Sanga, l'honorable Ados Dombassi, d'autres influenceurs dans le pays. L'opposition aussi avec M. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, etc., etc., sont également mobilisés pour leur action. Il y a 100 millions de Congolais et toutes les parties de l'opposition sont sur le terrain.
Vous étiez dans une manifestation il y a une semaine, vous avez été chargé et même interpellé pendant un temps. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
En bon dictateur, le président Tshisekedi a envoyé la police pour nous malmener. Et personnellement, moi, j'ai reçu un coup très violent qui m'a sommé quasiment. J'ai porté plainte auprès de l'auditorat militaire. Nous avons été arrêtés, oui. Au poste de police, nous avons été traités avec décence. Et ensuite, nous avons été relâchés.
C'était Bernadette Tukwaulo, candidate à l'élection présidentielle de 2023 en RDC et membre de l'opposition.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM.
Les transporteurs camerounais sont en grève après la mort brutale d'un chauffeur la semaine dernière sur les routes centrafricaines, laissant un impact sur le ravitaillement et les prix dans un marché de Bangui, la capitale centrafricaine. La Centrafrique est largement dépendante des importations, dont 40,2% provenaient du Cameroun en 2022, d'après les chiffres de l'International Trade Center. Alexandrine Holognon.
Au marché Boyrab à Bangui, 1000 francs CFA ne suffisent plus pour un sachet de café, du savon et du sucre depuis que les transporteurs camerounais sont en grève. Grâce à Dieu, Ndoman Dayo est un bricoleur.
C'est vraiment pas normal. Hier même, j'étais sur le marché pour acheter certaines provisions pour la maison. En l'espace de 24 heures, certaines denrées, comme le sucre et l'huile, qu'on achète souvent pour le petit déjeuner, ont grimpé beaucoup trop vite. Avant, c'était à 150 francs CFA et l'huile qu'on a l'habitude d'acheter à 350 francs CFA. Mais actuellement, non seulement nos commerçants ont augmenté les prix, mais même la quantité laisse à désirer. Comment voulez-vous qu'on vive dans ces conditions, sachant que nous sommes dans des familles nombreuses? C'est la raison pour laquelle, entre nous et les commerçants, tu ne pourras jamais avoir une entente. Je préfère ne pas acheter et rentrer chez moi.
De leur côté, les commerçants comme Magloire, Guérémachi se défendent.
Depuis cet incident avec les chauffeurs camerounais, les denrées sont difficiles, voire impossibles à trouver. Par chance, si nous, les boutiquiers, arrivons à trouver, c'est un coût très exorbitant. Pour pouvoir vendre sur le marché et se faire du profit, il faudra réduire les quantités et augmenter les prix, parce que nous aussi, on doit pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. Ce qui fait que d'ici 2 ou 3 semaines, si rien ne fait pour empêcher cela, les prix grimperont à des niveaux records.
D'après les chiffres de l'International Trade Center, 40,2% des importations de la Centrafrique provenaient du Cameroun en 2022. Situé à la frontière avec le Cameroun, Garoua Boulaye, à 725 km à l'ouest de Bangui, est la plaque tournante de l'axe reliant la capitale centrafricaine et Douala, grand port et capitale économique du Cameroun. Une route vitale pour l'approvisionnement en marchandises en provenance du Cameroun, du Nigeria et du Tchad. Depuis l'annonce de la mort par balle d'un transporteur camerounais à Bogouin, à 166 km au nord-est de Bangui, sur le corridor Mena à Douala, les chauffeurs camerounais refusent de continuer la route en Centrafrique. Jean-Finel Danoui, un Centrafricain, est convoyeur de voitures pour les particuliers.
Ce n'est vraiment pas normal ce qui s'est passé, car nous sommes tous des partenaires commerciaux. Nous, les Centrafricains et nos frères camerounais sont une famille, et voir qu'ils sont en danger alors qu'ils nous viennent en aide en nous apportant des provisions, je trouve cela scandaleux. Non seulement ça, mais secundo, ce n'est pas comme si on avait une autre route et un autre axe pour se ravitailler, et pire encore pendant ces périodes de fête. Je souhaite que justice leur soit rendue afin que les choses redeviennent normales.
En 2015, les camionneurs centrafricains et camerounais avaient déjà cessé leurs activités pour protester contre les attaques de groupes armés en Centrafrique et le pays avait connu des pénuries et une flambée des prix. En 2021, plusieurs centaines de camions étaient restés bloqués à la frontière camerounaise pendant 50 jours à la suite d'un blocus imposé par des groupes rebelles.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Des chercheurs, experts et diplomates se sont réunis à Dakar les 26 et 27 novembre lors d'un colloque international organisé par le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Ce forum avait pour objectif d'analyser les enjeux de souveraineté et de sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel en vue de proposer des solutions durables. Eric Manirakiza a joint à Dakar, la capitale sénégalaise, un des intervenants, l'ancien Premier ministre guinéen Koumara Kabiné.
Adopter de nouvelles approches qui vont de l'implication des communautés à la base, définition des différents paramètres, la définition en commun des objectifs, la recherche de solutions qui fassent appel parfois à des moyens traditionnels, avant de songer à l'armée ou à des solutions habituelles. Il fallait épuiser d'abord les solutions locales et surtout, impliquer les femmes, les jeunes, co-construire ensemble. On a bien adopté ce principe de co-construction des solutions. Et on pourrait donc progressivement aborder pays par pays, région par région, ce problème de sécurité. Parce que qui dit sécurité dit d'abord nécessairement défendre, protéger, pas seulement le territoire en tant que tel, mais l'ensemble des intérêts qui sont liés donc au pays. Et c'est en cela, comme n'étant plus de souveraineté statique, puisqu'aujourd'hui, avec l'ère du numérique, aucun État n'a les moyens de tout contrôler.
Ce n'est pas la première fois que ce type d'approche est proposé. Il y a un problème de gouvernance dans la région, qui est le problème de fond.
Oui et non, mais c'est-à-dire quand on prend la gouvernance uniquement au niveau de l'État supérieur, on a tout faux. C'est justement ce dont nous avons débattu aujourd'hui. il faut descendre à la base, et depuis les villages, les localités, sensibiliser les uns et les autres, tenir compte des moyens traditionnels, surtout les écouter, parce que très souvent on vient avec des solutions de copier-coller, pensant que c'est bien élaboré dans les laboratoires occidentaux ou j'allais dire onusiens ou de CDAO, alors qu'elles ne répondent pas nécessairement aux préoccupations des populations. Ceci dit, qui dit gouvernance dit nécessairement prendre en charge de manière rationnelle, équitable, convaincante et légitime la défense et la protection des populations. Donc oui, il y a des problèmes de gouvernance qui sont toujours posés, mais les problèmes sécuritaires dépassent le seul niveau de la gouvernance pour descendre très très bas pour avec l'implication fondamentale, complète et dès le départ des populations à la base.
La société civile et les médias ont-ils un rôle à jouer dans une situation de restriction des libertés?
Bon, si vous prenez la liberté, la restriction de la liberté en termes uniquement d'exercice de la diversité des acteurs politiques, je dirais que ce n'est pas suffisant parce que la liberté, c'est d'abord à la base aussi. Très souvent, de l'extérieur, on voit la restriction de liberté sur la façon dont la presse est bâillonnée ou la société civile n'arrive pas à s'exprimer. Certaines décisions sont prises contre l'avis d'autres intéressants, les y associer, oui. Mais ce que nous avons voulu dire, c'est que il faut donner la liberté, il faut libérer la parole, l'expression de la préoccupation à la base.
L'ancien Premier ministre guinéen Kumara Kabiné.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Depuis près de 100 ans, sauf pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains regardent la Macy's Thanksgiving Day Parade. Ce spectacle est une tradition annuelle qui vise à faire en sorte que des millions de consommateurs se sentent liés aux grands magasins. Dora Mekouar se penche sur la préparation du défilé. Le récit est de Dini Niwa.
Les préparatifs de la parade Thanksgiving de Macy's commencent jusqu'à un an avant le début de l'événement. Brandon Kennedy de Macy's Studio nous rappelle que des millions d'Américains la regardent.
Plus de 8000 personnes défilent dans les rues de New York devant 3,5 millions de téléspectateurs dans la rue et près de 30 millions à la maison.
Cette année, 22 chars, 11 orchestres et de nombreux groupes de scène participent à la parade, ainsi que 17 ballons de personnages divers pouvant atteindre 6 étages de haut. Dans les jours qui ont précédé le défilé, Macy's, le grand magasin américain qui parraine la parade, a donné un avant-goût de ce qui allait se passer.
Nous inaugurons les fêtes de fin d'année. Ce que nous essayons de faire en créant ces chars et ces ballons, c'est de raconter une histoire rapide et amusante qui divertit, surprend et ravit.
La nuit précédant le défilé, ces chars et ces ballons sont pliés à la taille d'un autobus et transportés de cet entrepôt de New Jersey à la ville de New York. Le spectacle à 100 ans, la toute première Macy's Thanksgiving Day Parade, a été lancée en 1924. C'est devenu une tradition américaine qui permet aux grands magasins d'associer son nom à l'une des plus grandes fêtes de l'année aux États-Unis, comme le souligne l'expert en marketing Jim Cusson.
Il n'y a pas beaucoup de choses qui durent aussi longtemps dans la culture américaine. À l'ère de la communication numérique et du marketing de la performance, un défilé dans la rue a quelque chose de sain qui trouve un écho auprès de nombreux acheteurs.
Macy's ne veut pas dire combien elle dépense pour le défilé, mais on estime que le coût s'élève à plus de 13 millions de dollars. Les marques sponsorisent certains chars, ballons et spectacles. Pour Kathleen Donohue Wright, c'est une façon de dire merci.
C'est notre cadeau à la ville de New York et c'est notre cadeau au pays. Et comme tout cadeau, il n'a pas de prix.
Et voilà, c'est tout pour le monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter ce journal sur voaafrique.com et sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et X. Mille fois merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. Je suis Nanit Talani. Firmé Max Koyaweda a assuré la mise en onde. Djoumbe Hamza était à la console. Au revoir et à très bientôt.